Chapitre 3, où le lecteur pourra, sans fatigue, jeter un coup d'œil sur la ville de Shanghai. Un proverbe chinois dit « Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, quand les prisons sont vides et les greniers pleins, quand les degrés des temples sont usés par les pas des fidèles et les cours de tribunaux couvertes d'herbes, quand les médecins vont à pied et les boulangers à cheval, l'empire est bien gouverné. » Le proverbe est bon. Il pourrait s'appliquer justement à tous les états de l'ancien et du nouveau monde. Mais s'il en est un où ce désidératum soit encore loin de se réaliser, c'est précisément le céleste empire. Là, ce sont les sabres qui reluisent et les bêches qui se rouillent, les prisons qui regorgent et les greniers qui se désemplissent. Les boulangers chôment plus que les médecins, et si les pagodes attirent les fidèles, les tribunaux, en revanche, ne manquent ni de prévenus ni de plaideurs. D'ailleurs, un royaume de 180 000 milles carrés, qui du nord au sud mesure plus de 800 lieues et de l'est à l'ouest plus de 900, qui compte 18 vastes provinces, sans parler des pays tributaires, la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, le Tonkin, la Corée, les îles Yutchou, etc., ne peut être que très imparfaitement administré. Si les Chinois s'en doutent bien un peu, les étrangers ne se font aucune illusion à cet égard. Seul peut-être l'empereur, enfermé dans son palais, dont il franchit rarement les portes, à l'abri des murailles d'une triple ville, ce fils du ciel, père et mère de ses sujets, faisant ou défaisant les lois à son gré, ayant droit de vie et de mort sur tous, et auquel appartiennent, par sa naissance, les revenus de l'empire, ce souverain, devant qui les fronts se traînent dans la poussière, trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne faudrait même pas essayer de lui prouver qu'il se trompe. Un fils du ciel ne se trompe jamais. Kin Fo avait-il eu quelque raison de penser que mieux vaut être gouverné à l'européenne qu'à la chinoise? On serait tenté de le croire. En effet, il demeurait, non dans Shanghai, mais en dehors, sur une portion de la concession anglaise, qui se maintient dans une sorte d'autonomie très appréciée. Shanghai, la ville proprement dite, est située sur la rive gauche de la petite rivière Huangpu, qui se réunissant à angle droit avec le Wusang, va se mêler au Yangtzekiang, ou fleuve bleu, et de là se perd dans la mer jaune. C'est un ovale, couché du nord au sud, enceint de hautes murailles, percé de 5 portes s'ouvrant sur ses faubourgs. Réseau inextricable de ruelles dallées que les balayeuses mécaniques s'useraient à nettoyer. Boutiques sombres, sans devanture ni étalage, où fonctionnent des boutiquiers nus jusqu'à la ceinture. Pas une voiture, pas un palanquin, à peine des cavaliers. Quelques temples indigènes ou chapelles étrangères. Pour toute promenade, un jardin thé et un champ de parade assez marécageux, établi sur un sol de remblai, comblant d'anciennes rizières et sujet aux émanations paludéennes. À travers ces rues, au fond de ces maisons étroites, une population de 200 000 habitants. Telle est cette cité d'une habitabilité peu enviable, mais qui n'en a pas moins une grande importance commerciale. Là, en effet, après le traité de Nanking, les étrangers eurent pour la première fois le droit de fonder des comptoirs. Ce fut la grande porte ouverte en Chine au trafic européen. Aussi, en dehors de Shanghai et de ses faubourgs, le gouvernement a-t-il concédé, moyennant une rente annuelle, 3 portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains, qui sont au nombre de 2000 environ. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville et s'étend jusqu'au ruisseau de Yan Kinpeng, qui la sépare du territoire anglais. Là s'élèvent les églises des lazaristes et des jésuites, qui possèdent aussi, à 4 milles de Shanghai, le collège de Tsikavé, où ils forment des bacheliers chinois. Mais cette petite colonie française n'égale pas ses voisines à beaucoup près. Des 10 maisons de commerce, fondées en 1861, il n'en reste plus que 3 et le comptoir d'escompte a même préféré s'établir sur la concession anglaise. Le territoire américain occupe la partie en retour sur le Wusung. Il est séparé du territoire anglais par le Soucheo Creek que traverse un pont de bois. Là se voit l'hôtel Astor, l'église des missions. Là se creusent les docks installés pour la réparation des navires européens. Mais des trois concessions, la plus florissante est sans contredit la concession anglaise. Habitations somptueuses sur les quais, maisons à véranda et à jardin, palais des princes du commerce, l'Oriental Bank, le Hong de la célèbre maison Dent avec sa raison sociale du Lao Chichang, les comptoirs des Jardines, des Russell et autres grands négociants, le club anglais, le théâtre, le jeu de paume, le parc, le champ de course, la bibliothèque, tel est l'ensemble de cette riche création des Anglo-Saxons qui a justement mérité le nom de colonie modèle. C'est pourquoi, sur ce territoire privilégié, sous le patronage d'une administration libérale, ne s'étonnera-t-on pas de trouver, ainsi que le dit M. Léon Rousset, une ville chinoise d'un caractère tout particulier et qui n'a d'analogue nulle part ailleurs. Ainsi donc, en ce petit coin de terre, l'étranger, arrivé par la route pittoresque du fleuve bleu, voyait quatre pavillons se développer au souffle de la même brise, les trois couleurs françaises et le yacht du Royaume-Uni, les étoiles américaines et la croix de Saint-André, jaune sur fond vert, de l'Empire des Fleurs. Quant aux environs de Shanghai, pays plat sans un arbre, coupé d'étroites routes empierrées et de sentiers tracés à angle droit, troué de citernes et d'arroyos distribuant l'eau à d'immenses rizières, sillonné de canaux portant des jonques qui dérivent au milieu des champs, comme les gribanes à travers les campagnes de la Hollande, c'était une sorte de vaste tableau, très vert de ton, auquel eût manqué son cadre. Le Perma, à son arrivée, avait accosté le quai du port indigène devant le faubourg est de Shanghai. C'est là que Wang et Kin Fo débarquèrent dans l'après-midi. Le va-et-vient des gens affairés était énorme sur la rive, indescriptible sur la rivière. Les jonques par centaines, les bateaux fleurs, les sampans, sortes de gondoles conduites à la godille, les gigues et autres embarcations de toute grandeur formaient comme une ville flottante où vivait une population maritime qu'on ne peut évaluer à moins de 40 000 âmes, population maintenue dans une situation inférieure et dont la partie aisée ne peut s'élever jusqu'à la classe des lettrés ou des mandarins. Les deux amis s'en allèrent en flânant sur le quai, au milieu de la foule hétéroclite, marchands de toutes sortes, vendeurs d'arachides, d'oranges, de noix d'arec ou de pamplemousses, marins de toutes nations, porteurs d'eau, diseurs de bonne aventure, bonzes, lamas, prêtres catholiques, vêtus à la chinoise avec queue et éventail, soldats indigènes, tipao, les sergents de ville de l'endroit et compradores, sortes de commis courtiers qui font les affaires des négociants européens. Kin Fo, son éventail à la main, promenait sur la foule son regard indifférent et ne prenait aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Ni le son métallique des piastres mexicaines, ni celui des talles d'argent, ni celui des sapèques de cuivre que vendeurs et chalands échangeaient avec bruit, n'aurait pu le distraire. Il en avait de quoi acheter et payer comptant le faubourg tout entier. Wang, lui, avait déployé son vaste parapluie jaune, décoré de monstres noirs, et, sans cesse orienté, comme doit l'être un chinois de race, il cherchait partout matière à quelque observation. En passant devant la porte de l'Est, son regard s'accrocha, par hasard, à une douzaine de cages en bambou où grimaçaient des têtes de criminels qui avaient été exécutés la veille. « Peut-être, dit-il, y aurait-il mieux à faire que d'abattre des têtes? Ce serait de les rendre plus solides. » Kin Fo n'entendit sans doute pas la réflexion de Wang, qui l'eût certainement étonné de la part d'un ancien Taiping. Tous deux continuèrent à suivre le quai en tournant les murailles de la ville chinoise. À l'extrémité du faubourg, au moment où ils allaient mettre le pied sur la concession française, un indigène, vêtu d'une longue robe bleue, frappant d'un petit bâton une corne de buffle qui rendait un son strident, venait d'attirer la foule. « Un Xiancheng, » dit le philosophe. « Que nous importe ?» répondit Kin Fo. « Ami, » reprit Wang, « demande-lui donc la bonne aventure. C'est une occasion au moment de te marier. » Kin Fo voulait continuer sa route. Wang le retint. Le Xiancheng est une sorte de prophète populaire qui, pour quelques sapèques, fait métier de prédire l'avenir. Il n'a d'autre ustensile professionnel qu'une cage renfermant un petit oiseau, cage qu'il accroche à l'un des boutons de sa robe, et un jeu de 64 cartes représentant des figures de dieux, d'hommes ou d'animaux. Les Chinois de toute classe, généralement superstitieux, ne font point fi des prédictions du Xiancheng, qui probablement ne se prend pas au sérieux. Sur un signe de Wang, celui-ci étala à terre un tapis de cotonnade, y déposa sa cage, tira son jeu de cartes, le bâtit et le disposa sur le tapis de manière que les figures fussent invisibles. La porte de la cage fut alors ouverte. Le petit oiseau sortit, choisit une des cartes, et rentra après avoir reçu un grain de riz pour récompense. Le Xiancheng retourna la carte. Elle portait une figure d'homme et une devise, écrite en Kunan Runa, cette langue mandarine du Nord, langue officielle qui est celle des gens instruits. Et alors, s'adressant à Kin Fo, le diseur de Bonaventure lui prédit ce que ses confrères de tout pays prédisent invariablement sans se compromettre, à savoir qu'après quelque épreuve prochaine, il jouirait de 10 000 années de bonheur. « Une, » répondit Kin Fo, « une seulement, et je te tiendrai quitte du reste. » Puis il jeta à terre un tal d'argent sur lequel le prophète se précipita comme un chien affamé sur un os à moelle. De pareilles aubaines ne lui étaient pas ordinaires. Cela fait, Wang et son élève se dirigèrent vers la colonie française, le premier songeant à cette prédiction qui s'accordait avec ses propres théories sur le bonheur, le second sachant bien qu'aucune épreuve ne pouvait l'atteindre. Ils passèrent ainsi devant le consulat de France, remontèrent jusqu'au ponceau jeté sur Yang Qinpeng, traversèrent le ruisseau, prirent obliquement à travers le territoire anglais, de manière à gagner le quai du port européen. Midi sonnait alors. Les affaires, très actives pendant la matinée, cessèrent comme par enchantement. La journée commerciale était pour ainsi dire terminée, et le calme allait succéder au mouvement, même dans la ville anglaise, devenue chinoise sous ce rapport. En ce moment, quelques navires étrangers arrivaient au port, la plupart sous le pavillon du Royaume-Uni. 9 sur 10, il faut bien le dire, sont chargés d'opium. Cette abrutissante substance, ce poison dont l'Angleterre encombre la Chine, produit un chiffre d'affaires qui dépasse 260 millions de francs et rapporte 300% de bénéfices. En vain, le gouvernement chinois a-t-il voulu empêcher l'importation de l'opium dans le Céleste Empire. La guerre de 1841 et le traité de Nanking ont donné libre entrée à la marchandise anglaise et gain de cause aux princes marchands. Il faut d'ailleurs ajouter que, si le gouvernement de Pékin a été jusqu'à édicter la peine de mort contre tout Chinois qui vendrait de l'opium, il est des accommodements, moyennant finances, avec les dépositaires de l'autorité. On croit même que le mandarin gouverneur de Shanghai encaisse 1 000 000 annuellement, rien qu'en fermant les yeux sur les agissements de ses administrés. Il va sans dire que ni Wang ni Kin Fo ne s'adonnaient à cette détestable habitude de fumer l'opium qui détruit tous les ressorts de l'organisme et conduit rapidement à la mort. Aussi, jamais une once de cette substance n'était-elle entrée dans la riche habitation où les deux amis arrivaient une heure après avoir débarqué sur le quai de Shanghai. Wang, ce qui aurait encore surpris de la part d'un ex-Taiping, n'avait pas manqué de dire « Peut-être y aurait-il mieux à faire que d'importer l'abrutissement à tout un peuple. Le commerce, c'est bien, mais la philosophie, c'est mieux. Soyons philosophes avant tout, soyons philosophes. »